Bonjour, je m'appelle Bruce Edwards et bienvenue à l'écoute de ce podcast du Fonds monétaire international. Aujourd'hui, le dernier rapport du FMI sur les perspectives économiques régionales prévoit que l'Afrique subsaharienne va connaître une deuxième année difficile à cause des multiples chocs qui frappent la région.
En fait, on estime qu'en moyenne pour les pays exportateurs de pétrole de la région, la baisse du prix du pétrole représente une perte de revenus de l'ordre de 20% du PIB, donc quelque chose d'extraordinaire.
Céline Allard dirige la division des études régionales au département Afrique du FMI et a supervisé la rédaction du nouveau rapport. Les pays exportateurs, surtout du pétrole, ont fait tant d'argent pendant tant d'années. Comment peut-on expliquer qu'aujourd'hui, plusieurs de ces pays se retrouvent déjà à court de fonds et n'arrivent pas à s'ajuster à la situation actuelle?
Donc, laissez-moi d'abord vous donner un panorama d'ensemble pour souligner que l'activité économique en Afrique subsaharienne a nettement ralenti. La croissance l'année dernière s'élevait à 3,4% et nous projetons qu'elle ralentira encore autour de 3% cette année, ce qui est nettement en deçà des 6% en moyenne auxquels nous avions été accoutumés au cours de la décennie précédente. Maintenant, une grande partie de cette décélération s'explique par la situation dans laquelle se trouvent les exportateurs de matières premières, et en particulier les exportateurs de pétrole. Ce sont des pays très grands, hein, le Nigeria, la première économie de la région, l'Angola, la troisième économie de la région, mais aussi des pays de l'Union monétaire d'Afrique centrale, la CEMAC. Pour ces pays, le ralentissement est encore plus marqué. Hein, la croissance cette année devrait s'élever à 2,2%. Alors que encore en 2014, on avait un taux de croissance de 6%. Alors pourquoi ces pays sont-ils affectés si durement ? Deux raisons. La première, c'est que la chute du prix du pétrole a été extraordinairement importante. En fait, depuis octobre 2014, les prix du pétrole ont diminué de plus de 60%, ce qui est en fait sans précédent sur aucune période de 18 mois depuis les années 70. Donc un choc d'une très très grande ampleur. La deuxième raison, c'est qu'encore plus que les autres pays exportateurs de matières premières, les pays exportateurs de pétrole dépendent excessivement des recettes du secteur pétrolier, tant pour les réserves de change que pour les recettes budgétaires. En fait, on estime qu'en moyenne pour les pays exportateurs de pétrole de la région, la baisse du prix du pétrole représente une perte de revenus de l'ordre de 20% du PIB, donc quelque chose d'extraordinaire. Et donc, même si les pays ont commencé à s'ajuster, cet ajustement est très difficile et aussi il doit être d'une ampleur très grande, ce qui explique en fait pourquoi ces pays sont actuellement en position difficile.
Et est-ce que le ralentissement de l'économie chinoise contribue à aggraver le problème?
Donc, la Chine fait partie des multiples chocs au niveau global qui ont impacté les prix des matières premières. Alors, ce qui se passe en Chine, c'est en fait qu'on assiste à un réajustement des sources de la croissance. Par le passé, la croissance dépendait beaucoup de l'investissement et des exportations, qui étaient très demandeurs en matières premières. Et à l'heure actuelle, ce qu'on voit, c'est que la croissance est davantage soutenue par la consommation et les services. Donc, la Chine a besoin de moins de pétrole, de cuivre, de charbon, de fer, qu'elle ne l'avait par le passé. Et en fait, ce que l'on voit de manière très concrète pour les pays d'Afrique subsaharienne, c'est que leur balance commerciale avec la Chine, qui jusqu'à la mi-2014 était en très fort surplus, en l'espace de moins d'un an, en fait, ce surplus a tourné à un déficit des échanges commerciaux.
Ce ne sont pas tous les pays qui sont aux prises des difficultés. Alors, pourquoi certains pays s'en sortent mieux que d'autres?
Donc, je vous remercie de soulever ce point-là, parce qu'en effet, on a tendance à amalgamer l'Afrique en une seule histoire, un seul narratif. Et en fait, ce que l'on voit, c'est qu'avec 45 pays dans la région, on a toujours eu de très fortes disparités entre pays. Et donc, même si les pays exportateurs de matières premières traversent en ce moment une période relativement difficile, ce que l'on voit, c'est qu'on a encore un grand nombre de pays dans la région qui continue à croître de manière très robuste. En fait, donc, sur les 45 pays d'Afrique subsaharienne, 13 d'entre eux, donc un tiers, pour 13 d'entre eux, nous projetons une croissance cette année supérieure à 5% et dans certains cas bien supérieure à 5%. Ce sont des pays comme le Kenya, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et aussi beaucoup de pays à faible revenu. Alors, pour ces pays-là, en fait, plusieurs facteurs expliquent ce fort dynamisme. Tout d'abord, ce sont des pays qui importent du pétrole. Donc, d'une certaine manière, ils bénéficient de la réduction de leur facture énergétique en termes d'importation. Mais par ailleurs, ce sont des pays aussi qui continuent à bénéficier d'un fort dynamisme de la consommation intérieure et aussi d'efforts très substantiels, qui continuent d'être très substantiels en matière d'investissement en infrastructure.
Le rapport aussi indique que la dette publique augmente beaucoup dans plusieurs pays. Est-ce que les FMI continuent à suggérer que l'investissement dans des projets d'infrastructure est une bonne idée?
Alors en fait, ce qu'il y a, c'est qu'en Afrique subsaharienne, on continue à avoir un déficit très important en matière d'infrastructure. Et ce déficit joue aussi en défaveur des efforts de diversification économique que nous appelons de nos voeux. Donc ces efforts d'amélioration de l'infrastructure, que ce soit les routes, l'électricité, qui sont très importants par exemple pour développer les activités industrielles, ces efforts doivent être continués. Cependant, dans les conditions actuelles, ce que nous suggérons, c'est un certain recalibrage de la manière dont ces investissements sont réalisés. Tout d'abord, les conditions de financement se sont fortement durcies, hein, que ce soit au niveau international avec le coût des eurobonds qui ont beaucoup augmenté, mais aussi au niveau domestique. On assiste à une augmentation des coûts d'emprunt. Et donc, dans ce contexte, ce que nous recommandons, c'est qu'en fait, que les autorités regardent de plus près les autres sources de revenus fiscaux qu'elle pourrait réaliser. Et là, nous voyons un grand potentiel encore pour les pays d'Afrique subsaharienne. Et en fait, augmenter le flux de revenus année après année en termes de recettes fiscales est un moyen beaucoup plus soutenable de financer ces investissements. Par ailleurs, plus que jamais, il est important que on prioritise mieux ces projets de manière à ce que ce soit les projets avec le retour sur investissement le plus élevé qui soient réalisés. Et dans certains pays qui ont en place des projets très ambitieux, nous les invitons à peut-être regarder un peu plus près à ces projets et les étaler peut-être plus dans le temps.
La région subit aussi une sécheresse importante. Quels sont les impacts économiques de cela?
Alors, tout d'abord, ça a un impact humanitaire très important. En fait, près de 40 à 50 millions de personnes sont en risque de déficit alimentaire d'ici la fin de l'année. Donc, c'est effectivement un choc très important. Mais au-delà de ces effets, de ces coûts humains et sociaux, on voit un effet aussi plus large au niveau macroéconomique. Tout d'abord, au niveau de la croissance, des pays comme l'Éthiopie et le Malawi vont subir une forte baisse de la production agricole. Mais ça a aussi des ramifications en termes, par exemple, de production d'électricité, parce que les barrages, les niveaux de l'eau dans les barrages sont plus faibles. Et donc, dans des pays comme le Zimbabwe ou la Zambie, ça a aussi affecté la production économique à un sens plus large. Ce que l'on voit aussi, c'est qu'avec l'augmentation des prix des produits alimentaires, l'inflation augmente dans un certain nombre de pays. Et cela va toucher les couches les plus vulnérables de la population, en particulier les ménages pauvres dans les milieux urbains.
Donc, que doivent faire ces pays, selon le FMI, pour essayer de contrer ces problèmes?
Alors, tout d'abord, je voudrais faire un point important, c'est qu'en dépit des conditions difficiles auxquelles certains pays de la région font face, nous continuons d'estimer que les perspectives de croissance à moyen terme restent favorables pour la région. Pourquoi ? Parce que, en fait, les facteurs fondamentaux qui ont soutenu la croissance très forte auxquelles on a assisté au cours de la décennie précédente restent en place, en particulier l'amélioration très forte du climat des affaires auxquelles on a assisté. Et puis, n'oublions pas que la transition démographique que traversent ces pays en ce moment soutiendra aussi la croissance dans le futur. Mais pour réaliser ce potentiel, ce que nous disons, c'est qu'un changement de cap décisif en matière de politique économique s'impose à ce stade. Parce qu'en fait, ce que nous avons vu, c'est que les réactions de politique économique ont été insuffisantes à ce stade, en particulier pour les pays exportateurs de pétrole et de matières premières. Et donc, en quoi consiste ce changement de cap? Ben, tout d'abord, en matière budgétaire. À ce stade, il devient clair que les pays doivent faire des efforts pour contenir leur déficit budgétaire. Ils ont utilisé leur marge de manœuvre sur les derniers 18 mois et maintenant, ces marges de manœuvre ne sont plus trop disponibles. Et puis par ailleurs, nous ne projetons pas une remontée des cours des matières premières au niveau auquel on assistait avant la mi-2014. Donc cet ajustement très important doit prendre place, à la fois, comme je le disais, en termes de revenus, élargir l'assiette fiscale, mais aussi en termes de rationalisation des dépenses, en particulier nous considérons que les subventions au carburant, qui restent encore très importantes dans certains pays et qui tendent à bénéficier les couches les plus aisées, il faudrait les réformer. Dernier point, au-delà des changements en matière de politique budgétaire, nous continuons à penser que la politique de taux de change dans les pays qui en disposent, c'est-à-dire les pays qui ne font pas partie d'union monétaire, cette politique doit continuer à aider à absorber ce choc très important auquel ils font face.
C'était Céline Allard, chef de la division des études régionales au département Afrique du FMI, qui commentait le nouveau rapport sur les perspectives économiques régionales de l'Afrique subsaharienne. Le papier intégral peut être consulté sur imf.org. Et vous pouvez écouter d'autres podcasts comme celui-ci à soundcloud.com/imfpodcasts.